Pourrions lire à la suite du cantique un premier verset dans la première épître à Timothée. Nous avons chanté « Ta parole, vivant message, nous apporte le vrai bonheur, la paix, la joie et le courage en suivant ce divin sauveur. » Simplement quelques versets qui nous parlent du vrai bonheur. Dans le rassemblement, ici à Strasbourg, à plusieurs reprises, on a évoqué la joie. Est-ce que nous sommes heureux? Est-ce que nous sommes des croyants, des chrétiens qui sont heureux? Est-ce que nous connaissons quel est exactement le vrai bonheur? Dans la première épître à Timothée, au premier chapitre, il y a cette expression au verset 11 où il nous est parlé du Dieu bienheureux. Si nous cherchons le bonheur et être heureux en dehors de Dieu, nous ne le trouverons pas. Il n'y a pas de bonheur véritable en dehors de Dieu. Il est le Dieu bienheureux. Et il veut que nous le connaissions d'abord comme le Dieu sauveur, première épître à Timothée, premier chapitre, mais non seulement comme notre Dieu sauveur, mais aussi comme notre Dieu qui donne le bonheur et qui désire le bonheur de ses enfants. L'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. En dehors de Dieu, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de paix. Dans le psaume 73, je voudrais que nous remarquions une expression. Psaume 73. La deuxième moitié du verset 25. Et je n'ai eu de plaisir sur la terre qu'en toi. Et je n'ai eu de plaisir sur la terre qu'en toi. On a dit que ce sont des paroles qui ont été sans doute prononcées par le Messie quand il est venu sur cette terre. Et s'adressant à son Dieu, n'a-t-il pas pu dire « Je n'ai eu de plaisir sur la terre qu'en toi ». Alors, la question que nous pourrions tous nous poser, est-ce que de près ou de loin, nous pouvons dire, en n'évoquant le Dieu bienheureux, est-ce que nous avons du plaisir sur la terre comme lui? Est-ce que nous le connaissons comme notre Dieu sauveur, mais aussi comme ce Dieu bienheureux qui veut nous apporter le vrai bonheur? On a remarqué qu'il y a plusieurs psaumes qui commencent par le mot « bienheureux ». Et si nous cherchons le bonheur, la joie sur cette terre, eh bien, nous pourrions considérer avantageusement ce que disent tous ces psaumes qui commencent par le mot « bienheureux ». Pour eux, peut-être en lire quelques-uns, enfin, moi le début, dans le psaume 32. Verset 1er et verset 2. Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Bienheureux l'homme à qui l'Éternel ne compte pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. C'est sans doute le premier psaume dans un ordre moral ou spirituel. Un homme qui cherche le bonheur sur cette terre, eh bien, cet homme doit connaître la rédemption et il doit connaître le pardon par grâce qui est donné au pécheur qui reconnaît sa culpabilité devant Dieu. Et nous voyons là, dans la première expression, la joie du pardon. Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Nous pouvons tous nous interroger, du plus petit au plus grand, est-ce que nous connaissons ce bonheur d'avoir nos péchés pardonnés? Et dans le psaume 32, de David, bien sûr, il nous est parlé d'un homme qui avait péché et dont la conscience est labourée et qui va retrouver la joie de la communion avec son Dieu par la confession de son péché. Et par la confession de son péché, il va connaître le pardon et la délivrance. Mais le premier verset et le deuxième verset nous montrent qu'il faut toujours commencer par la rédemption. Être heureux d'avoir les péchés pardonnés. Le deuxième psaume qu'on peut considéré, c'est le psaume 1er. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au siège des moqueurs, mais qui a son plaisir en la loi de l'Éternel et médite dans sa loi jour et nuit. Et il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui rend son fruit en sa saison et dont la feuille ne se flétrit point et tout ce qu'il fait prospère. Si le premier bienheureux du psaume 32 nous présente un homme ou une femme qui connaît le pardon de ses péchés, le psaume premier nous parle de sainteté pratique, de fidélité à Dieu, de fidélité individuelle. Et on a dit que ce psaume est un psaume messianique, c'est-à-dire qu'il est le parfait exemple de l'homme pieux par excellence, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui a été approuvé de Dieu. Et cet homme, Jésus-Christ, qui n'a pas marché dans le conseil des méchants, qui ne se tenait pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au siège des moqueurs, mais qui avait son plaisir en la loi de l'Éternel et méditait dans sa loi jour et nuit. Est-ce que nous connaissons ce bonheur et cette joie de vivre à l'écart du péché? Et c'est le seul chemin des justes, de l'homme pieux, c'est de vivre dans la séparation du monde, du péché. Et le verset 2, « Et qui a son plaisir en la loi de l'Éternel et médite dans sa loi jour et nuit. » Est-ce que nous réalisons de tels versets? Est-ce que nous avons ce plaisir de lire la parole de Dieu, de la méditer jour et nuit? Ou bien est-ce que nous la lisons par devoir, de temps à autre, rapidement, parce qu'on sait qu'il faut le faire? Mais on voit quand même dans ce psaume que l'homme pieux qui se tient à l'écart du péché, eh bien, il a son plaisir en la loi de l'Éternel et médite dans sa loi jour et nuit. Voilà le vrai bonheur, puisque cet homme pieux a son plaisir en la loi de l'Éternel. Bienheureux d'avoir nos péchés pardonnés. Bienheureux de marcher dans la sainteté pratique à l'écart du péché. Dans le psaume 41, c'est un psaume aussi qui commence par le mot « bienheureux ». Je ne sais plus, je crois qu'il y en a huit psaumes qui commenceraient par le mot « bienheureux ». Psaume 41, « Bienheureux celui qui comprend le pauvre, au mauvais jour l'Éternel le délivrera. » L'Éternel le gardera et le conservera en vie. Il sera rendu heureux sur la terre et tu ne le livreras point à l'animosité de ses ennemis. Bienheureux celui qui comprend le pauvre. La signification en hébreu du mot « pauvre », c'est celui qui est faible, celui qui est souffrant. Et on peut faire sans doute la comparaison avec comprendre le Seigneur dans son abaissement, c'est-à-dire discerner la position que le Seigneur Jésus a prise et dans laquelle il a été rejeté des hommes, lui le vrai pauvre. Nous nous souvenons de ce verset dans la deuxième épître aux Corinthiens, qu'il s'est appauvri pour nous enrichir. Et bienheureux celui qui comprend le pauvre. Est-ce que, dans la lecture de la parole de Dieu, nous avons à cœur de sonder les Écritures parce qu'elles témoigne de lui. Elle nous parle de lui, et comme nous l'avons dit ce matin, dans son abaissement. Et c'est un sujet pour le cœur du croyant, un sujet très précieux de comprendre jour après jour quelle est cette position de rejeté que le Seigneur a prise. Et dans ce psaume 41, nous voyons qu'il y a des promesses. C'est-à-dire, nous connaissons le bonheur de nous pencher sur les Écritures pour comprendre le pauvre, mais la promesse que nous fait Dieu, l'Éternel, au mauvais jour, l'Éternel le délivrera. L'Éternel le gardera et le conservera en vie. Il sera rendu heureux sur la terre et tu ne le livreras point à l'animosité de ses ennemis. On a dit que toutes les pages de l'Écriture contiennent des promesses divines. Mais quelle promesse nous fait Dieu dans ce début de psaume 41 si nous comprenons le Seigneur dans son abaissement? Eh bien, il y a cette promesse qui nous est donnée: au mauvais jour, nous serons délivrés, nous serons gardés, conservés en vie, et nous serons rendus heureux sur la terre. Ceux qui désirent être heureux, avoir, se réjouir en Dieu, se réjouir en Christ, eh bien, la parole de Dieu répond à toutes ces questions que nous pouvons nous poser. Et nous comprenons que ce sont des joies profondes. C'est la joie de nos âmes. Ce n'est pas de la gaieté, comme dans ce monde, quelque chose qui passe. Mais comprendre le Seigneur Jésus dans son abaissement, Christ dans son abaissement, quand il a souffert pour nous, eh bien, quel sujet de méditation, mais quel sujet de joie pour nos cœurs. Je crois que c'est le psaume 112 où il nous est parlé aussi du... Peut-être que je me trompe, hein. Non. Bienheureux l'homme qui craint l'Éternel et qui prend un grand plaisir en ses commandements. Sa semence sera puissante dans le pays, la génération des hommes droits sera béni, les biens et la richesse seront dans sa maison et sa justice demeure à perpétuité. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Il est plein de grâce et miséricordieux et juste. Heureux l'homme qui use de grâce et qui prête, il maintiendra sa cause dans le jugement. Aussi, il ne sera jamais ébranlé. La mémoire du juste sera à toujours. Bienheureux l'homme qui craint l'Éternel. Est-ce que nous craignons Dieu? Alors, ce n'est pas une crainte ici, une manifestation extérieure, mais c'est une crainte qui est intérieure, qui ne se voit pas forcément. Elle n'est pas vue forcément par nos frères et par nos sœurs, mais c'est bienheureux l'homme qui craint l'Éternel et qui prend un grand plaisir en ses commandements. Voyons que la crainte est liée au commandement ou à la vérité. Si je crains Dieu, eh bien, j'ai à cœur la vérité de Dieu, indissociable bien sûr de la bonté. Voyons souvent dans les psaumes que la bonté et la vérité sont liées. Et il n'est pas question d'ignorer l'un en insistant sur l'autre. Mais ici, nous voyons que le bonheur, c'est de craindre Dieu. Et nous voyons les conséquences, là aussi, dans nos maisons. La semence de l'homme qui craint l'Éternel sera puissante dans le pays, la génération des hommes droits sera bénie. On ne voit pas forcément la bénédiction immédiate, mais c'est encore une promesse de la part de Dieu. Si nous avons cette crainte de Dieu intérieure, le bonheur de suivre ses commandements et de prendre un grand plaisir dans ses commandements, eh bien, nous voyons que Dieu nous fait cette promesse, que cette semence sera puissante dans le pays, et les biens et la richesse seront dans sa maison. Bien sûr, là, les psaumes sont des psaumes pour Israël, et cela concerne sans doute pas avec exactitude la période de la grâce, la période actuelle de la grâce, mais les biens et la richesse seront dans notre maison. Quel bien et quelle richesse d'avoir nos enfants qui suivent Christ dans leur vie. Encore un autre, le psaume 119. Verset premier et verset second. Bienheureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent dans la loi de l'Éternel. Bienheureux ceux qui gardent ses témoignages, qui le cherchent de tout leur cœur. Alors non seulement être fidèle à la parole de Dieu, c'est-à-dire la garder ses témoignages, ses instructions, ses préceptes, les chercher de tout notre cœur, la garder dans notre cœur, l'observer, mais en même temps, cette parole de Dieu que nous avons dans le cœur, eh bien, elle produit comme effet ici l'intégrité. L'intégrité dans nos voies, c'est-à-dire pas de duplicité, pas de cœur double. Présenter un beau côté à mes frères et à mes sœurs, et puis dans la vie de tous les jours, au travail ou ailleurs, eh bien montrer un autre visage. Bienheureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent dans la loi de l'Éternel. Est-ce que nous avons à cœur de la garder, de l'observer avec fidélité? Encore, je crois que c'est le dernier, le psaume 128. Bienheureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies, car tu mangeras du travail et tes mains, tu seras bienheureux et tu seras entouré de biens. Ta femme sera au-dedans de ta maison comme une vigne féconde. Tes fils seront comme des plants d'olivier autour de ta table. Voici, ainsi sera béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et puisses-tu voir le bien de Jérusalem tous les jours de ta vie, et voir des fils de tes fils, la paix soit sur Israël. Ce dernier psaume insiste sur encore sur la crainte de l'Éternel. Et Dieu insiste toujours dans sa parole sur les devoirs du chef de famille. Et Dieu n'insiste jamais sur nos droits, tandis que nous, en tant qu'hommes, on fait toujours valoir nos droits et on parle beaucoup plus rarement de nos devoirs. Eh bien, nous voyons que Dieu insiste toujours sur les devoirs, sur nos devoirs, sur les devoirs du chef de famille, et il faut insister, et non pas sur nos droits. Notre droit, c'est de craindre l'Éternel et d'avoir une marche fidèle. Premier verset. Et la conséquence, encore, puisque c'est le deuxième psaume qui commence par ces mots liés à la crainte de l'Éternel, au verset 2, tu seras bienheureux, tu seras entouré de bien. Donc, un bonheur personnel à craindre l'Éternel et à marcher dans ses voies. Mais nous voyons aussi que le foyer chrétien est béni, ainsi que le peuple de Dieu. Ta femme sera au-dedans de ta maison comme une vigne féconde. Bénédiction sur la femme, sur l'épouse. Tes fils seront comme des plants d'olivier autour de ta table. Bénédiction pour les enfants. Voici ainsi sera béni l'homme qui craint l'Éternel. Et alors il est ajouté, l'Éternel te bénira de Sion et puisses-tu voir le bien de Jérusalem tous les jours de ta vie. C'est-à-dire que la bénédiction, elle commence par l'homme qui craint l'Éternel, elle est transmise à l'épouse, elle est transmise aux enfants dans la maison, et elle est transmise, la bénédiction, au peuple de Dieu. Et bienheureux quiconque craint l'Éternel. Et nous voyons qu'au verset 6, ces bénédictions successives se terminent par « et voir des fils de tes fils, la paix soit sur Israël », la bénédiction qui va aller sur les générations futures. Nous avons chanté donc tout à l'heure ce qui concerne le vrai bonheur, la paix, la joie. Nous ne pouvons pas trouver la joie en dehors de Dieu. Et Dieu s'appelle lui-même le Dieu bienheureux. Et en relisant attentivement chacune le début de ces psaumes, on voit non seulement que Dieu désire notre bonheur, et il nous donne la marche à suivre pour trouver le bonheur sur cette terre, afin que nous puissions goûter cette joie en Dieu et en Christ, et pouvoir nous réjouir tous en Christ.
Dans la parole, il y a là beaucoup de bienheureux. Mais on peut citer juste un psaume, le psaume 84, dont il y a trois bienheureux. Psaume 84, combien sont aimables tes demeures, ô Éternel des armées. Mon âme désire et même languit après les parvis de l'Éternel. Et au verset 4, bienheureux sont ceux qui habitent dans ta maison et qui te loueront sans cesse. Ici, c'est le culte. Pour nous, est-ce que nous aimons-nous venir à l'Assemblée pour notre culte? Est-ce qu'on a notre âme désir et languit après le parvis de l'Éternel? Bienheureux sont ceux qui habitent dans ta maison, ils te loueront sans cesse. Ensuite, c'est la marche au verset 5. Bienheureux l'homme dont la force est en toi. Nous n'avons aucune force en nous, mais bienheureux l'homme dont la force est en toi. Puis nous arrivons encore à la fin, au verset 12 de ce psaume 84, après toute la marche qui est expliquée. Bienheureux l'homme qui se confie en l'Éternel. C'est une chose excellente de trouver, de rendre culte, de trouver la force qui est en Dieu seul. Comme pouvait dire l'apôtre, l'Éternel, Christ m'a fortifié. Christ m'a fortifié. Et la force, elle est en lui et en lui seul. Et nous voyons alors à la fin la confiance. Bienheureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Bienheureux l'homme qui se confie en lui. Le vrai bonheur ici-bas, comme nous le chantons, c'est d'avoir Jésus pour maître et de le suivre pas à pas.
On peut dire encore une expression dans le Cantique des Cantiques au premier chapitre. C'est la bien-aimée qui parle de son bien-aimé. Cantique des Cantiques, premier chapitre, au milieu du verset 4. Nous nous égayerons et nous nous réjouirons en toi.
Très brièvement, je voudrais encore mentionner un motif de joie pour le chrétien. Nous trouvons cela dans le chapitre 19 de l'Apocalypse. Et au verset 7. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et sa femme s'est préparée. Et il lui a été donné d'être vêtue de fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les justices des saints. Et il me dit, écrit, bienheureux sont ceux qui sont conviés au banquet des noces de l'agneau. S'il est une joie ineffable pour le chrétien, c'est bien d'entendre parler de cet avenir glorieux qui sera le nôtre. Non seulement parce que nous serons avec le Seigneur, parce que nous ferons partie de cette épouse céleste qui pourra éternellement le considérer, le voir, l'adorer, mais aussi parce qu'il nous est déjà donné maintenant d'entrer quelque peu dans les pensées de Dieu à l'égard de son bien-aimé. Il est encore question de joie, mais non pas de la nôtre, de la joie du Seigneur. Nous trouvons cela dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. Au verset 13, et maintenant, le Seigneur Jésus s'adresse à Dieu, et maintenant je viens à toi, et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux-mêmes. Nous avons nous réalisons quelque peu, et de façon prophétique, la joie qui sera celle du Seigneur Jésus lorsqu'il introduira son épouse dans la maison du Père. Et c'est là pour nous, déjà maintenant, un motif merveilleux de nous réjouir et de rendre grâce.